Eh bien, c'est notre tribune d'actualité mensuelle du dernier samedi du mois. L'actualité, elle sera pas, ou risque de décevoir certains, politico-socio-économique, mais elle sera spirituello-théologique, parce que chaque année, les protestants célèbrent ce qu'ils appellent la fête de la Réformation, qui se raccroche à cette date pour eux importante, qui est l'affichage des 95 thèses de Luther à la porte de la chapelle château de Wittenberg le 31 octobre 1517. Ce qui, entre parenthèses, remue déjà les églises protestantes, puisqu'on va bientôt arriver à l'année 2015. Alors 2017, c'est pas loin, et donc ça va être une grande célébration. Et comme nous sommes à quelques jours du 31 octobre, j'ai pensé que, en effet, l'actualité avec Martin Luther serait intéressante si nous nous raccrochions à un livre qui, un livre d'un poids certain, l'auteur est en train de sourire, je vais vous le présenter, parce que c'est un fort volume, et qui, en effet, touche à l'une des affirmations qui se rattachent à Martin Luther, qui dit que nous sommes à la fois justes et pécheurs. Alors, je vous poserai la question tout à l'heure, je dis ça à l'auteur, il y a une virgule, hein, c'est « simul justus et peccator, peccator et justus », virgule, « semper penitens », ce qui n'est pas dans votre livre tout à fait, mais enfin, bon, si, ça doit y être probablement, vous allez me le dire, j'ai mal lu. Alors voilà, j'ai l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'homme pécheur », ça va pas être plus simple, hein. Vous retiendrez le titre, aux éditions franciscaines. Pourquoi ? Parce que Claude Brunier-Coulin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes franciscain de l'ordre, d'un tiers-ordre, comme on dit,
voilà.
C'est ça, hein?
Oui, tertiaire franciscain, oui.
Voilà. Ceci dit, vous êtes docteur en théologie, ceci explique cela, c'est-à-dire le livre que vous avez consacré à ce sujet. Et j'ai invité deux personnes, l'une d'entre elles vient d'être appelée pour un problème grave, et peut-être reviendra-t-il en cours d'émission, mais ce n'est pas sûr. Et l'autre, j'allais dire, c'est un habitué, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu, de nos amis, c'est le père Bernard Cézoué, bonsoir.
Bonsoir.
Qui est jésuite, qui est enseignant, qui est théologien, qui a écrit des ouvrages et qui a été depuis de longues années un des théologiens spécialistes des questions écuméniques dans l'Église catholique romaine.
Je m'y suis intéressé.
oui.
Fortement.
Oui, fortement, de très près. Voilà. Merci donc au père Cézoué d'être venu. Et si le pasteur Alain Joly, que nous avons invité, arrive, nous serons heureux de le recevoir. Le pasteur Alain Joly, et pasteur luthérien, ça tombe bien. Alors, bon, la formule de Luther, nous allons y arriver, mais je voudrais demander à notre invité, Claude Brunier-Coulin, d'essayer de nous introduire un petit peu, parce qu'évidemment, on ne peut pas détailler le livre en entier, il serait trop volumineux, mais comment on arrive à l'étude de cette formule, et puis en nous introduisant à tout ce qui est au début de votre livre, le péché, la grâce, la justification, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a tout un vocabulaire. Qu'il faut que vous nous expliquiez, que vous alliez utiliser, je regarde, monde réel, monde conceptuel, monde imaginal, avec un L au bout, c'est pas imaginaire, hein, c'est imaginal, et puis le miroir, et puis, bon, enfin, expliquez-nous un petit peu, introduisez-nous dans votre réflexion, et peut-être au départ, au pourquoi de votre rédaction, qu'est-ce qui vous a amené à vous précipiter sur cette affaire.
Merci. Le sous-titre de cet ouvrage, c'est « Un modèle critique de la justification ». Et quand on dit « justification », très souvent, on dit « ça, c'est un problème théologique, c'est réservé à des spécialistes ». Et il y a même souvent dans le monde catholique où on dit qu'il s'agit d'un problème pour des protestants uniquement. Bon. Ce que je voulais dire d'abord, pour commencer, c'est que, avant d'être une question théologique ou de spécialiste, c'est d'abord une question qui est naïve, que j'appelle naïve tout simplement. Parce que vous êtes dans la rue et vous passez devant quelqu'un qui fait la manche. Eh bien, pour une raison un peu inconnue, vous avez un sentiment étrange, comme si vous étiez coupable de quelque chose. Alors que le fait qu'il y ait des gens qui font la manche, si vous voulez, il y a des raisons politiques, économiques, sociales, et le fait de rencontrer cette personne-là, il n'y a pas de, vous n'avez pas commis de délit. Bien. Et pourtant, il y a en nous un sentiment de culpabilité. Et là, il y a deux possibilités. Ou bien vous passez votre chemin et 10 mètres plus loin, vous avez oublié cette personne. Ou bien vous donnez une pièce. Et quand vous avez donné une pièce, curieusement, vous vous sentez soulagé, libéré. Libéré de quel... Mais libéré de quoi ? Parce que on n'a rien résolu dans le problème de la pauvreté. Non. Libéré de quelque chose en nous. Pas par rapport au problème de la pauvreté.
Alors, vous voulez dire justifié.
Voilà. On a l'impression d'avoir commis un acte juste. Et on se dit aussi, il y a un autre phénomène, c'est la logique de don et reconnaissance. C'est-à-dire que pour cet acte-là, on pense qu'on va être certainement reconnu par quelqu'un, quand, et d'avoir dénoué quelque chose en nous. Et ça, dénouer quelque chose, c'est une question qui a un rapport avec le salut. On se sent sauvé de quelque chose. Donc vous voyez que on est dans le schéma don et reconnaissance, on est par rapport à la question du salut, et la logique qui prend place, c'est que on vient de commettre, si je puis dire, une œuvre, une bonne œuvre, une bonne action. Et pour cette bonne action, eh bien, on va être récompensé ou sauvé de notre situation. Ça, c'est un schéma qui est tout à fait naturel. Il ne fait intervenir aucun concept théologique, rien du tout. C'est un concept anthropologiquement naturel. Alors, que dit saint Paul ? Il dit, nous vivons avec des carcans. Par exemple, celui dont je viens de parler, le don et la reconnaissance, c'est une logique binaire dans laquelle on est prise. Et saint Paul dit, mais il est possible de nous libérer des carcans. Il y en a d'autres, hein. Et la façon de nous libérer des carcans, c'est de vivre de la parole du Christ. De vivre par le Christ et, comme il le dit exactement, de vivre en Christ. Vivre en Christ me permet de me libérer de carcans dont je suis prisonnier. Si on reprend les personnes qui passent devant celui qui fait la manche, s'il y a une personne qui vit en Christ, pour saint Paul, elle est libérée, elle est déjà libérée de certains carcans, et donc, se présentant devant la personne qui fait la manche, ou bien il passe son chemin, comme d'autres le font, ou bien il dépose une pièce, mais cette fois-ci, le fait de déposer une pièce est la conséquence du fait qu'il est déjà libre parce que il vit en Christ. Donc, si vous voulez, on voit deux schémas dans lesquels la libération intervient, dans le premier cas après avoir fait une bonne action, et dans le deuxième cas, la libération est déjà présente, et donc la bonne action devient une conséquence de ce fait-là.
Alors écoutez, moi je vous écoute, moi qui appartiens au protestantisme, à l'église luthérienne, et je me pourlèche les babines et je me frotte les mains, parce que voilà, j'ai l'impression que je suis au catéchisme dans la paroisse où j'étais, et où j'essayais d'expliquer, comme étant pasteur, aux enfants, l'histoire de la foi et des bonnes œuvres, et alors en essayant de leur dire, mais il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire des œuvres, mais on ne fait pas des œuvres pour être sauvé. On fait des œuvres parce qu'on est déjà sauvé. C'est la conséquence. Alors, je trouve que vous êtes d'un luthéranisme extraordinaire. Je ne savais pas qu'il y avait des franciscains luthériens. Je le découvre. Enfin, je trouve que, vous voyez, ça me semble, nous sourions là, mais ça me semble très important ce que vous venez de dire.
C'était toute la doctrine du père de Moncheuil en 1950, dans ses leçons sur le Christ, qui ont tenu 6 mois en librairie parce que Rome les a fait retirer. Et qu'il les a fait retirer à cause du chapitre sur la rédemption, et précisément parce qu'il disait que Dieu n'attend pas que nous fassions quelque chose pour nous sauver, mais nous pouvons faire quelque chose parce que Dieu nous a déjà sauvés. Mmh. Oui, c'est un point donc qui était encore très sensible, et j'espère beaucoup pouvoir faire reparaître, car il est sorti des droits de l'éditeur, ce livre l'année prochaine, avec une introduction qui situe. Et on a demandé au père de Lubac de réécrire ce chapitre, et il a dit « Je me refuse à trifouiller un texte que je n'ai pas écrit et avec lequel je suis d'accord.
» Alors, je vais vous dire, ça me fait penser à une expérience pastorale, de gens qui disaient « Alors, on vient à l'église le dimanche, tous les dimanches, on recommence. Mes frères, mes sœurs, confessons nos péchés. Ouais. » Alors, à chaque fois, ça recommence. Et puis, mais c'est automatique. Alors, ça marche, il suffit de venir. Ah, je dis, attendez, c'est pas tout à fait ça. c'est pas comme ça que ça se passe. Vous confessez vos péchés, non pas pour en demander pardon, mais parce que déjà, il vous a pardonné. Mmh. Et que malheureusement, vous êtes encore tombé, et moi avec, dans l'ornière. Bon, mais c'est déjà fait. Il est déjà mort sur la croix. Il a déjà donné son pardon. Et malgré ça, nous, on continue encore à dévier de la route. Et donc, c'est bien pour ça qu'on dit, pardon, je sais que je suis pardonné. Eh bien, j'ai encore
toujours à demander pardon.
Voilà.
Cette opposition à laquelle vous faites allusion, elle est devenue particulièrement épineuse, disons, à cause des dérives. Parce que dans le premier schéma, lorsqu'on dit bon, je fais des œuvres et je peux être sauvé à cause des œuvres, bon, il y a une tentation à dire plus je fais d'œuvres et de bonnes actions, plus j'ai de chances d'être récompensé plus tard. Et si vous voulez, ça gonfle au point qu'il y a un moment, on va même faire un commerce des œuvres pour faciliter l'acquisition ou la réalisation d'un nombre d'œuvres et d'augmenter ses chances
nouveau,
de salut.
C'est pas nouveau. J'ai l'évangile, l'histoire de cet homme qui demandait la guérison de son serviteur ou de son enfant, ça dépend de la traduction. Et les Juifs disaient « il mérite ».
Il mérite.
Et alors, il y a des dérives. Il y a des dérives dans l'autre position également. Oui. C'est-à-dire que je peux avoir je peux vivre en Christ, mais me contenter de vivre en Christ sans jamais voilà. Mais en fait, dans mon livre, je ne regarde pas ce terrain-là. Moi, ce qui m'intéresse, je m'arrête simplement aux deux aspects d'un point de vue strictement théologique, sans regarder ce que j'appelle les dérives. Et c'est pour ça que j'en viens directement à la formule « simulius tus et peccator », parce que c'est vraiment là qu'est concentrée la question de la justification.
Alors, à la fois, on traduit en général, mais vous allez justement expliquer ça, à la fois juste et pécheur, c'est un paradoxe. Je ne veux pas dire l'oxymore, mais...
regardons un petit peu cette formule, ce qu'elle contient. D'abord, elle contient deux mots, juste et pécheur. Ces deux mots sont reliés par la conjonction « et ». Et je voudrais rappeler ici que Luther est un scolastique. Il a des intuitions modernes, mais il raisonne en scolastique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a un conflit avec Erasme, beaucoup plus... C'est un conflit qui est beaucoup plus entre anciens et modernes.
Je croyais que Luther était plutôt un anti-scolastique, mais
oui.
Non.
Il a la dialectique scolastique.
Exactement. Oui, voilà. Et c'est pour ça que les prépositions Et les conjonctions sont très importantes dans ces textes. Il faut bien regarder ça. Je crois que ça, c'est la marque des scolastiques. Le modèle du genre, c'est saint Anselme. Hein. Et donc, le « et » veut juxtaposer et réunir de façon assez forte des contraires et non pas des contradictoires.
Oui.
Parce que la différence entre les contradictoires sont deux oppositions qu'on ne peut pas réunir. Par exemple, « oui », »,« non », ce sont des contradictoires. Hommes et femmes, ce sont des contraires, mais qui sont même destinés à s'unir. Donc, quand
je
ne
sais pas si
Nadjad
Vallaud-Belkacem serait d'accord. Enfin, ça a un problème.
Donc déjà, ça, c'est sur, sur le « et ». Ce que je voulais dire aussi, c'est que « juste » est placé au commencement. Et vous savez que...
Ah, excusez-moi de vous interrompre. Mmh. Très intéressant parce que moi, dans l'église luthérienne à laquelle j'appartiens, j'ai toujours entendu « simul justus et peccator », juste et pécheur. Mmh. Mais très souvent, je vois de mes interlocuteurs, catholiques romains en particulier, qui disent « simul peccator et justus ». Ils commencent par « peccator », par « pécheur ».
Alors, vos interlocuteurs romains, vous leur direz qu'ils ont tort, que c'est que la formule,
c'est... Si c'est vous qui le dites, je vous laisse la responsabilité.
Alors, le commencement. Vous savez qu'on a un problème avec le commencement. C'est très facile à comprendre. Vous prenez deux enfants qui se disputent parce qu'ils jouent aux billes ou quand ils sont en train de jouer aux billes, et vous cherchez à savoir qui a commencé la dispute, vous n'y arrivez pas, et même eux d'ailleurs ne savent pas, si bien que finalement le commencement, on ne le connaît pas, et on n'arrive pas à le connaître. Mais, si vous sortez de chez vous pour aller à la boulangerie, eh bien, en sortant de chez vous, vous commencez par le premier pas. Et je vous défie de sortir de chez vous en commençant par le deuxième pas ou par un autre pas que le premier. C'est-à-dire que là, le commencement, il est parfaitement identifié. Dans une série, vous pouvez toujours identifier le premier commencement. Vous voyez que ça pose vraiment un problème, parce que, ou bien nous ne savons pas, ou bien nous savons très exactement de quoi il s'agit. Et il y a toute une tradition, donc il y a tous les philosophes qui s'étripent là-dessus. Alors, on refuse le mot commencement. Par exemple, Schelling parle de fondement, puis on parle d'archéologie, de généalogie. Il y a l'origine, quelle est la différence entre l'origine, le commencement, etc.
Ah, pour moi, elle est capitale.
Ouais. Alors...
Écoutez, je voulais vous dire, petite parenthèse, je dis à nos auditrices et nos auditeurs, avec le sac de billes ou le premier pas en sortant de chez vous, ou la pièce de monnaie dans le fond, vous voyez, au fond, faire de la théologie, c'est pas très compliqué, mais vous pouvez continuer.
Donc, Luther commence par, juste, si vous voulez, il y a l'ambiguïté, c'est que le commencement, qui est l'arché, l'archique, contient en lui-même l'anarchique, c'est-à-dire sa destruction propre. Et ici, on a le tragique de la situation humaine, c'est d'être compris entre l'archique, qui contient en lui-même l'anarchique, qui va, si vous voulez, l'anarchique entretient avec l'archique une relation incestueuse. Hein, parce qu'il veut absolument être dans le lit de l'archique. Voilà. Alors, mais en même temps, cette ambiguïté sur le commencement, il empêche que le commencement, c'est quelque chose de magique. C'est saint Augustin qui dit ça dans la Cité de Dieu, Anna Arendt également, dans la Condition de l'homme moderne. Regardez par exemple la rentrée des classes. C'est magique, la rentrée des classes. Hein, un nouveau cartable, une nouvelle école, un nouveau flirt, un nouveau professeur. Bon, tout ça, c'est féerique, c'est magique. Et donc, vous voyez que dans quelle situation le problème du commencement nous tiraille. Et étant donné que nous ne savons pas, eh bien, le commencement, il faut l'instituer. Et comme toute chose qui est instituée, il peut être destitué. C'est ce qu'on appelle le régime épocal. Là, je prends une terminologie un peu heideggerienne.
Ça se complique un peu, là.
Oui, ça se complique.
Non, je pense à celles et ceux qui nous écoutent. Oui.
En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le commencement, il est le résultat d'une institution. Ça n'est pas un objet que l'on découvre. Et c'est pour ça qu'il est très important de dire Luther commence par dire juste. Et au commencement, nous sommes justes, mais sous-entendu, nous sommes institués justes. Alors, Luther ajoute devant la préposition « simul » pour bien, à mon sens, pour montrer qu'il a bien vu qu'il y a un problème avec le commencement. Et la préposition « simul » veut dire, attention, il y a une fracture entre juste et pécheur qu'il faut maintenir. Mais, je mets une parenthèse et je dis à la fois, pour bien préciser, que cette tragédie, nous devons la vivre, il faut la maintenir et nous devons la vivre. Et le gros problème aujourd'hui, c'est ce que je veux montrer donc dans mon grand chapitre de Prolégomène, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui refuse cette rupture et qui refuse cette situation tragique. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Eh bien on trouve une notion englobante. Par exemple, pour bien montrer avec un exemple très simple, vous prenez le discours du sportif. Prenons le perchiste qui s'apprête à sauter. Voilà. Quand il est au bout de la piste et qu'il s'élance, vous avez 60 000 personnes dans le stade et 6 ou 7 millions de téléspectateurs qui sont en anxiété. Voilà, oui. Et le perchiste s'élance. Au moment où il passe la barre, donc là, c'est la catharsis, hein, c'est-à-dire que tout le monde retient son souffle. Alors, il passe ou il passe pas. Et ensuite, une fois qu'il est passé ou qu'il n'est pas passé, que dit-il? Eh bien, il dit, j'ai eu de bonnes sensations. C'est-à-dire que, ça, c'est ce que j'appelle l'englobant. C'est-à-dire que, il n'est plus dans la catégorie réussite-échec. Il a trouvé une notion englobante qui va pouvoir dire, ben finalement, dans un cas comme dans l'autre, eh bien, tout va bien, quoi, un petit peu. Voilà.
Alors, je vous écoute, mais j'ai quand même lu un peu hein, dans votre livre. Et je crois bien avoir lu quelque part, quand vous parlez d'un face-à-face, on parlait de ça. Et dans le face-à-face, vous dites le pécheur précède le juste. Avec un sens eschatologique. Alors expliquez-moi, parce que c'est le contraire de ce que vous venez de dire. Oui.
En fait, ce que je veux dire, Luther dit à la fois juste et pécheur. Ce que je veux dire, quand je me vois pécheur, c'est quand je suis dans la situation que j'ai présentée au début de notre entretien. Mmh, mmh. C'est-à-dire, je suis dans la rue, je vois...
Oui, j'éprouve un sentiment de culpabilité.
Voilà, c'est ça. Et donc, la première chose qui vient en moi, c'est le fait d'être pécheur. C'est dans ce sens-là que j'ai dit que...
Mais alors, vous avez écrit page 628, en gros titre, à propos de la formule « simul peccator et justus ». Alors, c'est une inattention?
Oui.
Parce que vous venez de nous dire...
C'était ma question tout à l'heure.
Pardon?
C'était ma question de tout à l'heure. Où est le peccator et justus dans la formule?
Ben oui. Là, vous vous en servez, la formule à la fois pécheur et juste, etc. Alors, c'est un peu différent de ce que vous venez de nous dire. Alors, ce que vous dites sur le commencement est très intéressant, mais moi, j'y ajouterais que le commencement est inaccessible. Nous ne pouvons pas connaître le commencement du monde. Nous ne pouvons pas connaître le commencement de notre propre vie. nous sommes postérieurs à notre naissance, n'est-ce pas ? Il y a toujours cette idée d'une inaccessibilité. Le père Gibert a très bien montré ça dans un livre et à propos des origines du monde, à propos du Big Bang et toutes ces choses-là. C'est extrêmement intéressant. Comment l'homme fait-il pour essayer de rejoindre un commencement ? Et ce commencement est toujours, et je pense que cette formule-là, l'inaccessibilité du commencement vaut aussi pour notre formule, parce que nous ne pouvons pas rejoindre un moment donné où nous serions totalement justes. Mais quelle est la priorité du peccator et justus ? Ça c'est. Et autrement dit, cette dialectique est une dialectique extrêmement délicate et qui nous emmène très loin. Enfin, moi, j'ai compris que votre livre voulait surtout rendre compte de cette dialectique, que ce n'est pas le problème, j'allais dire, doctrinal ou théologique du simul peccator et justus ou le problème du conflit entre protestants et catholiques à ce sujet qui vous intéresse. Vous l'avez traité largement en étudiant la réponse de Karl Barth à... la réponse de Hans Küng à Karl Barth, etc., etc. Donc là, vous estimez que, je me trompe peut-être, enfin, parce que je n'ai pas lu la totalité de votre livre, j'ai essayé de le parcourir le plus vite possible. Mais j'ai l'impression que vous tenez qu'il n'y a plus de problème doctrinal entre la tradition de la Réforme et la tradition catholique sur ce point-là. Mais ce que vous essayez, c'est de l'analyser spéculativement, j'allais dire, et de lui faire dégorger un petit peu tous ces sous-entendus, toutes ces, tout ce qui va avec, tout ce qu'elle suppose, cette formule. C'est un peu comme ça que j'ai compris votre livre.
Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que la deuxième partie qui constitue le livre 2, c'est en fait une recherche d'un modèle herméneutique de la justification. Alors, comment faire pour trouver un modèle herméneutique ? La question que je me suis posée, c'est...
Attendez, expliquez ça à nos amis qui nous écoutent. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle herméneutique ?
Un modèle de compréhension.
D'accord.
Un modèle de compréhension.
Oui, un modèle de compréhension. Bon. Alors, comment faire pour trouver un modèle de compréhension ? Eh bien, je me suis posé la question dans les termes suivants. Est-ce qu'il est possible de trouver, dans la mesure du possible, un modèle qui ne soit pas épocal, comme dit, pour reprendre encore une terminologie...
C'est-à-dire transitoire, en termes plus accessibles.
Oui, parce que, si vous voulez, comment se présente la pensée, en fait ? La pensée se présente sous la forme d'une succession d'écoles, ce que j'appelle les époques. Bon. Donc on a les Grecs, on a la scolastique... Le rationalisme, l'idéalisme transcendantal, absolu, l'existentialisme, etc. Et comment fonctionne une école ? Au départ, il y a un fantasme. D'après saint Augustin, le réel vient dans la pensée sous la forme d'une image. Ensuite, il est enveloppé dans un contexte culturel et il devient un fantasme qui commence par se déployer, qui travaille. Donc là, une école philosophique, elle commence par là. Le fantasme se déploie, il produit son effet, et il produit des représentations, puis des représentations de représentations, etc. Est-ce que tout ça fonctionne comme un cyclone ? Si vous voulez, vous avez l'œil du cyclone.
Est-ce que ce que vous appelez le fantasme en ce moment, c'est ce que vous appelez l'imaginal dans votre livre ?
Non, là je suis à la recherche d'un modèle de compréhension. Et comme ça fonctionne comme un cyclone, donc nous avons le noyau, le point de départ, qui commence à fonctionner. Ensuite, un tourbillon qui se forme autour avec les représentations de représentations, etc. Et puis arrive un jour où le fantasme originel est destitué par quelqu'un. Et là se crée une nouvelle école. Alors, si on regarde cette succession, et si on regarde maintenant les philosophes ou tout au long de la pensée, eh bien, il y en a dont on peut dire, quelques-uns, dont on peut dire qu'il est très difficile de les accrocher à une école. Voilà. Par exemple, Nietzsche. Nietzsche, c'est assez difficile de dire qu'il appartient à une école particulière. Voilà. Alors, je me suis fixé sur ces théologies, hein, sur ces vieux. Alors, nous avons, dans la pensée occidentale, nous avons Scott Erigène, par exemple, qui est celui de le théologien de l'apparition. D'ailleurs, Balthazar, par exemple, l'évoque pas mal dans son œuvre. Donc, il a ce fameux adage, sous sa forme latine, non apparitio apparentis, c'est-à-dire ce qui m'apparaît n'apparaît pas. Et en fait, ce que dit Scott Erigène, on le retrouve dans la pensée musulmane de type iranienne. Voilà. Alors, comment nous connaissons ceci? Parce qu'en fait, il y a une très grande école française d'islamologie iranienne, avec Louis Massignon, Louis Gardet,
Corbin.
Et Corbin, et c'est surtout chez Corbin que j'ai pris les... Alors, que dit cette école? Eh bien, elle dit un peu, 300 ans plus tard, elle dit un peu la même chose que Scott Erigène. C'est-à-dire que il y a le monde réel et le monde intelligible, ça c'est les catégories augustiniennes. Hein, et ce que dit, alors, Ibn Arabi et Sora Awardi, qui sont les deux théologiens que j'ai travaillés, c'est qu'il y a un troisième monde qui s'appelle le monde imaginal. Et c'est ce monde des images qui apparaissent. Alors c'est Corbin qui a formulé qui a donné ce terme. Et bon, évidemment, je ne cherche pas à faire l'exégèse de ce mot, parce que Corbin a une lecture à lui, qui est une lecture philosophique. Enfin, il a des présupposés philosophiques, mais en fait, je ne discute pas ces présupposés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce troisième monde. Et nous vivons, finalement, donc dans trois mondes. Le monde réel, le monde intelligible, celui des concepts, et le monde imaginal, ce monde des images qui nous apparaissent. Et nous faisons venir, aller et venir, ces trois mondes différemment suivant les circonstances. Par exemple, vous êtes devant un objet, l'image vient à vous. Vous êtes, donc là, le monde imaginal vient après le monde réel. Mais on peut avoir l'inverse. C'est ce qui vient dans ce qu'on appelle la sensation du déjà-vu. La sensation du déjà-vu, c'est lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et vous dites, tiens, cette personne, je l'ai déjà vue. Et ça, qu'est-ce qui se passe mentalement? C'est que l'imaginal est apparu avant le réel. Donc, vous voyez, voilà une illustration pour...
Alors, je vous interromps d'abord parce que nous allons respirer un instant, parce qu'il faut qu'on digère, avec un peu de musique, d'une belle musique protestante et luthérienne, c'est un choral, et puis on va revenir, parce qu'il va falloir que vous expliquiez maintenant avec tout ça comment on revient à Simul Justus et Peccator, ou Peccator et Justus, parce qu'on n'est pas encore sûr d'y être dedans.
Thank you.
Vous avez bien reconnu, c'est ce qu'on appelle le choral de Luther, Gnaden Festeborg, parce que évidemment, comme la formule simul, etc., pécheur et juste tout à la fois, parce que ce qui m'intéresse, depuis tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qui est en premier, pécheur ou juste, là, je me dis, mais où est-ce qu'on a mis le simul, là? À la fois, en même temps, je voudrais bien comprendre, hein, parce que vous dites hein, en premier il y a ci ou en premier il y a ça. Moi j'avais
toujours. C'est-à-dire que la formule ne prétend pas remonter à l'origine, je crois.
Expliquez-moi ça.
Et c'est toujours le problème de l'origine, du commencement et toutes ces choses-là.
Parce que ce qui est important quand même, c'est ce que.
C'est moi. Moi je parle trop loin.
Ah oui,
ça. Ah c'est... bon, mais on n'est pas enregistré en ce moment.
Bon, alors.
On n'est pas enregistré, non, je parlais librement.
Non, c'est allumé, on est enregistré là.
Ah bon, ah, ben alors.
Elle coupera tout ça après.
Alors là, il faut que je me rapproche là. D'accord.
Je reprends. La question, c'est quand même que vous expliquez dans votre livre que tout cela, ça se traverse comme une épreuve. Vous dites, c'est le Christ qui a traversé cette épreuve. Et c'est quand on est en Christ, ce qui n'est pas la même chose que de dire « je suis pardonné par le Christ ». En Christ. Il va falloir comprendre ce que ça veut dire « en Christ ». Et ensuite, comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que en Christ, je suis à la fois juste et pécheur? J'aimerais bien comprendre là où, comment ça marche.
En fait, il y a une situation anthropologique. C'est celle que j'ai décrite au début. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de la personne qui passe devant celui qui fait la manche, eh bien, de façon spontanée, je parlais de ce sentiment de culpabilité. De façon spontanée, il va, dans un langage théologique, donc il va se reconnaître pécheur. Bien. Ça, c'est le premier. Et puis, mais vivre en Christ, ça veut dire, si je reprends la personne qui vit en Christ d'après saint Paul, ça veut dire qu'elle vit dans la foi. Donc, si vous voulez, il y a deux niveaux. Il y a le niveau anthropologique, et puis il y a le niveau où on vit dans la foi. Et anthropologiquement, c'est-à-dire la situation normale pour tout un chacun, c'est cette situation de culpabilité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « L'homme pécheur », parce que c'est vraiment le premier sentiment qui arrive dans la condition tragique. Mais quand on vit, vivre de la foi, c'est quand même arriver à se reconnaître juste. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a déclaré juste. C'est rejoindre. Il y a l'illustration. J'ai commencé mon livre par ce passage, ce conte du vilain petit canard. Voilà, c'est ce qui se passe. Il est quand même pour nous, il est pécheur. Il est un vilain petit canard. Et un jour,
il devient le cygne.
Voilà, il devient le joli cygne blanc. Mais pourquoi il devient le joli cygne blanc? Mais c'est parce qu'en fait, il n'a jamais été un vilain petit canard. Il a toujours été un joli cygne.
En d'autres termes, et ça m'a beaucoup intéressé, c'est quand vous dites tout ça ne se réalise que parce que le Christ prend notre forme. Vous employez ce mot-là. Nous sommes pécheurs, lui, il est juste. Mais il prend la forme du péché. Et du coup, comme il ne pêche pas, et il est la parfaite résolution, il est le simul lui-même. Il devient à la fois
mais pas
le juste
sens.
Qui ne pêche pas et qui prend notre forme.
Il n'est pas le simul, mais là, c'est peut-être quelque chose de plus profond qui nous sépare. Je dirais qu'il n'est pas simul et pécateur comme nous le sommes, nous. Parce que nous, je dirais, la formule, elle concerne celui qui a été sauvé par le Christ. C'est un résultat. C'est en fonction de l'action du Christ que nous sommes en ce moment « simul justus et peccator ». Voyez-vous. Mais je ne dirai pas ce que vous dites dans la perspective barthienne et balthazarienne, parce qu'ils sont très proches l'un de l'autre là-dessus, que le Christ a été condamné comme pécheur par le Père, que toute la colère du Père est tombée sur le Christ. Ça, c'est une chose, à mon avis, qui est une interprétation théologique respectable. J'en ai discuté autrefois avec Balthazar, mais qui ne me paraît pas justifiable, et en tout cas, qui n'est pas engagée par la doctrine catholique. Elle peut permettre ce type de théologie, mais alors, il ne faudrait pas non plus faire remonter dans la personne du Christ quelque chose qui vaut pour l'homme justifié. Mais le Christ est infiniment au-delà. Et c'est parce qu'il est au-delà qu'il peut créer pour nous cette situation de simul justus et peccator. Mais peut-être que là, nous ne sommes pas... j'ai été très frappé en parcourant encore une fois votre livre. Je ne l'ai pas lu en détail, donc je ne peux pas apporter un jugement. Et je suis très respectueux de la richesse, non seulement de la documentation... vous avez tout lu, mais de la spéculation que vous faites. Bon, ce que je regrette un petit peu, c'est que surtout dans les titres, vous ayez choisi des mots ésotériques. Il y a beaucoup de mots ésotériques qui fait que votre table des matières ne parle pas. Hein, normalement, quand on n'a pas le temps de tout faire et qu'on se reporte à la table des matières et qu'on essaie de voir le mouvement de la pensée, eh bien, vos titres un petit peu géomatiques, voyez-vous, juste théorématiques, vous avez beaucoup de titres comme ça qui créent une sorte d'ombre, et comme on ne voit pas ce que veut dire le titre, on a beaucoup de mal à restituer ce qui peut être dans le contenu, si vous voulez. Alors, vous aimez ces mots-là. Vous les aimez visiblement, parce que vous les employez tellement généreusement que... Alors, et j'ai l'impression quand même que ce faisant, vous rendez un livre dont le sujet est déjà difficile, vous le rendez un petit peu plus difficile, et pour des raisons qui ne sont pas tout à fait nécessaires. Mais là, je suis peut-être un peu, et c'est peut-être le fruit d'une lecture trop rapide, mais vous avez certainement à répondre là-dessus, parce que ce livre qui fait plus de 700 pages, hein, si je ne m'abuse, oui, il en fait 724 ou 25, c'est un livre qui peut pas être lu par n'importe qui, pour lequel il faut une assez grande culture, mais même, je dirais, l'honnête homme du XXe siècle ou l'honnête femme du XXe siècle qui voudrait, qui s'intéresse à ces choses-là et qui voudrait y réfléchir, j'ai peur qu'elle soit terriblement désorientée par ce côté un peu obscur, un peu ésotérique quand même. Alors que je crois que vous touchez des choses capitales, et j'ai beaucoup aimé votre introduction tout de suite, parce qu'elle est toute simple, celle-là. Bon, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Mais, alors, vous avez un mode de pensée extrêmement dialectique. Et ça, c'est très respectable, je dirais. Et vous ne tombez pas dans la manière dont souvent les Français ont interprété les formules luthériennes, parce qu'ils ne voient pas que chez Luther, il y a toujours une dialectique, qu'il y a toujours un simul, précisément. Et que, si vous voulez, moi, ce que je reprocherais peut-être à Calvin, mais certainement à Bourdaloue, c'est d'avoir compris les formules allemandes en oubliant la dialectique. Et en faisant que Dieu est devant son Fils vraiment comme celui qui condamne, qui piétine, et il faut que ça saigne, et que ça saigne plus encore, et alors vous avez même en Bossuet, vous avez des formules terribles. Moi, je suis très sensible. Mais enfin, voilà, je vous laisse parler, parce que je vous ai un peu...
Oui, effectivement, j'ai voulu rendre compte en particulier de la théologie de Barthes, que je trouve très intéressant, justement, sur le plan dialectique.
Ah oui, bah, certainement.
J'ai retenu son style. Bon, bien sûr, un certain nombre de points théologiques qui m'intéressent et je pense qui ne sont pas rédhibitoire pour un catholique. Hein. Le commandement, par exemple. Prenons le commandement. Bon. Puisque nous parlions du commencement, la chose importante, bon, le commencement est un commandement.
Oui.
Bon. Ouais. Donc là, voilà un point d'accroche très intéressant. Et donc voilà, j'ai voulu effectivement, à partir de cette question, faire du Barthes, je m'en cache pas. Et comme vous le disiez, essayer de faire du Barthes, mais comme si c'était un Allemand qui le lisait, c'est-à-dire pas, voilà. pas extraire.
Non, vous n'avez pas lu comme un Français, ça, voilà. c'est tout à fait. Ça, je... Donc,
mais alors, est-ce que vous pourriez expliquer pour nous autres Français qui vous écoutons où est-ce qu'on aboutit parce que, bon. À la fois juste et pécheur, ou à la fois pécheur et juste, et je continue à dire, virgule, et toujours pénitent, ce qui n'est pas n'importe quoi.
Vous avez raison.
Ben oui, quand même, c'est la phrase complète, c'est ça.
Bon, ah,
ben
oui.
Et ça alors, finalement, votre livre, vous l'avez écrit pour dire quoi? Pour dire que c'est une bonne formule ou c'est une mauvaise formule? Qu'il faut la lire autrement ou que finalement c'est pas comme ça qu'il faudrait dire les choses? Ça, c'est ça qui m'intéresse pour l'instant.
Bon, ce que je voulais dire, c'est que c'est une formule remarquable. Et même, je dirais même qu'elle a été, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été adoptée par la chrétienté finalement?
D'une certaine manière, oui.
Pour moi, c'est ce que j'ai voulu dire.
On peut dire voilà. que c'est une formule chrétienne.
Voilà.
Oui, c'est une formule chrétienne.
Et en essayant de en parlant de sa construction tout à l'heure, je voulais montrer dans ce sens que c'était une formule remarquable sur le plan de la construction. Et j'ai voulu aussi sortir de ce fameux conflit entre les œuvres et la foi. Vous pouvez voir. Donc, en 700 pages, pratiquement, je ne parle pas du tout de cette question-là.
Les œuvres, oui.
Voilà, enfin, de ce conflit.
Vous êtes très pauline, parce que
voilà,
la vraie dialectique de Paul, c'est pas la foi. La vraie dialectique de Paul, c'est pas la foi et les œuvres, c'est la foi et la loi.
Oui,
c'est d'essayer de convaincre les Juifs que les chrétiens ne sont pas infidèles à l'Ancien Testament parce qu'ils se libèrent de la loi, mais parce qu'ils remontent à la foi d'Abraham.
Oui.
Alors Luther, en fonction de son expérience personnelle, a fait une lecture qui a un petit peu motivé la dialectique. Et aujourd'hui, c'est reconnu par les exégètes protestants, tout à fait ça, que pour Paul, la vraie dialectique, c'est la foi et la loi. D'ailleurs, avec les Galates aussi, vous prétendez encore vous rapporter à la loi. Et à tous les Juifs non convertis ou en difficulté de se convertir, il leur dit, vous n'allez pas être infidèles à l'Ancien Testament ou à la loi de Moïse, vous allez remonter à la foi d'Abraham, c'est beaucoup mieux.
Alors écoutez, je veux dire...
Et puis il y a un troisième point, si vous me permettez, c'est la confrontation avec la pensée moderne.
Oui,
bien sûr. Et le premier chapitre qui fait plus d'une centaine de pages, je passe mon temps à me battre avec tous les philosophes.
Non, moi, je crois que le mot qui répondrait à votre question le mieux dans votre texte, c'est pas moi qui l'invente, c'est vous qui le dites, c'est le verbe, l'adjectif dynamique. Le rapport entre Justus et peccator est un rapport dynamique. Qui fait que je suis toujours dans un mouvement de passer de mon péché à la justice. Et que là, il n'y a pas du tout de contradiction formelle entre quelqu'un qui serait juste et pécheur sous le même rapport. C'est pas ça du tout.
Non, c'est dynamique. Mais alors, ce qui m'intéresse dans le dynamique, et on va terminer maintenant, malheureusement, ce qui est dans le dynamique, c'est aussi... Alors, je vais essayer de traduire. C'est l'eschatologique, c'est ce que vous dites.
Vous dites, un côté eschatologique.
En chemin, c'est-à-dire que je suis pécheur, bon, je le sais, bon, tout va très bien, et je suis juste en Christ, comme vous disiez, c'est-à-dire que, comme je crois c'est dans les Colossiens, Dieu nous regarde en Christ, à travers le Christ, et il nous voit déjà juste.
Oui.
Mais nous sommes encore pécheurs, mais il est dans notre avenir, dans le royaume, et nous sommes déjà justes dans le regard de Dieu, bien que pécheurs encore.
Et nous serons totalement justes.
Cette
formule est une formule qui vaut pour notre status vie.
Voilà. C'est une formule qui va disparaître.
Qui va disparaître.
Au moment où de l'institution du royaume. Voilà. Ouais.
Hein, il faut qu'elle disparaisse.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est dans le Christ qu'il nous voit juste. Donc on est juste, puisqu'il nous voit comme ça. Mmh. Mais comme je suis encore pécheur, eh ben oui, simul justus et peccator. Je suis à la fois juste et pécheur. Mais c'est pas, en effet, simplement côte à côte. Ouais. C'est en route.
Non, il y a une dynamique entre les deux, ça c'est.
Bon. Eh bien, écoutez, je suis désolé de vous dire qu'il va falloir qu'on s'arrête et que si vous avez envie d'approfondir la question et le vocabulaire auquel faisait allusion le père Cesboué, il faut savoir que sur notre site fréquenceprotestante.com, les émissions restent pendant 6 mois. Alors, vous pouvez la réécouter et la réétudier en cherchant sur le site. Donc, c'est très important. Ou la copier et puis vous la faire écouter parce qu'en effet, ce n'était pas un débat aussi simple qu'on aurait pu l'imaginer. En tout cas, je vous remercie tous deux, vous, Claude Brunier-Coulin. Le bouquin s'appelle « L'homme pêcheur » aux éditions franciscaines. Je vous remercie, vous aussi, le père Bernard Cesboué, d'être venu ici nous aider à déchiffrer un peu toute cette affaire. Mais c'est pas fini, on en a encore pour un moment à la déchiffrer. Merci à vous deux.
Merci.